Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Charlie.
Voilà, merci à William Lungamba qui cède le sablier à Paul Banenham au niveau de la mise en onde. Et nous avons notre invité qui est déjà dans ce studio. Et comme je l'ai dit, le 14 dernier, c'était la journée mondiale du don du sang, une journée dédiée à toutes ces personnes qui donnent leur sang pour sauver des vies humaines en RDC pour des motifs d'ordre religieux ou coutumier ou encore à cause des fausses idées reçues. Beaucoup de personnes hésitent à donner de leur sang. Et pourtant, on ne cesse de répéter, le don du sang est un don, est un geste d'amour. Alors comment faire pour devenir donneur bénévole du sang? Nous avons, comme je l'ai dit dans ce studio, Jean-Marie. Encore bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Alors, au-delà d'un simple geste d'amour, le don du sang est plus que salutaire dans une prise en charge médicale.
C'est un acte volontaire par lequel une personne en bonne santé accepte donc de disponibiliser son sang pour une autre qui se retrouve quelque part dans une situation d'anémie. Cette personne-là qui bénéficie de ce sang est appelée receveur. Donc ici, il faut centrer l'idée d'un bénévole de sang autour de ce couple, donneur et receveur. Alors tous les efforts de sécurité transfusionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des précautions qui sont prises pour que le sang, qui soit donné, soit un sang de qualité, ces précautions donc visent à protéger et le donneur et le receveur.
Mais en RDC, est-ce que l'offre du sang est égale à la demande?
L'offre du sang n'est pas encore égale à la demande, parce qu'ici il s'agit presque d'une règle économique des besoins. En économie politique, on nous dit que les besoins sont illimités en nombre. C'est là donc ne fait pas exception pour la sécurité transfusionnelle. Les besoins sont nombreux pour la vie de Kinshasa, par exemple, à peu près 100 000, n'est-ce pas? Même pas à un peu 50% sont satisfaits, mais pour le pays, nous avons à peu près 450 000 besoins, seulement 36% sont satisfaits, pour qu'ils soient couverts, pour dire que les besoins sont illimités, mais le sang qui est aujourd'hui disponible, évidemment, ne parvient pas à couvrir encore tous les autres besoins. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, les besoins aussi sont croissants année par année, pour des raisons tout à fait bien connues, physiologiques, sanitaires, des problèmes d'accidents, les industries sont en train de dégrader dans les pays, et ce qui fait que il n'y a pas que les accidents, il y a surtout également le paludisme chez les enfants, il y a les femmes qui... les femmes enceintes, les conditions des hôpitaux n'étant pas tout à fait réunies pour les naissances, et bien tout ça est en train de faire graver donc les besoins, et donc oui, il y a des efforts qui doivent être fournis pour satisfaire ces besoins-là.
Oui, Jean-Marie, il y a bon nombre d'auditeurs qui nous suivent en ce moment, qui aimeraient bien faire partie de donneurs bénévoles de sang, et il y a d'autres peut-être qui voudraient également avoir internet par rapport à ce qui est fait ou par rapport à comment devenir un donneur de sang. Qui est donneur bénévole du sang et qui ne peut pas l'être?
Voilà, qui peut être donneur bénévole du sang? Toute personne qui a déjà atteint 18 ans, entre 18 et 60 ans, s'il est prouvé par les consultations médicales qui précèdent le don, eh bien cette personne-là peut être donneur bénévole de sang. C'est-à-dire, pour être clair et net, il doit avoir au moins donc 18 ans, il doit peser 50 kilos, mais également, il y a un élément, il faut qu'il soit tiré d'une communauté à bas risque.
Ouais. Communauté à bas risque.
La communauté à bas risque ici, c'est donc ce qui est contraire un peu à la stratégie SIDA, mais ici, pour la stratégie dont bénévole de sang, eh bien, nous sommes en train, dans le cadre de la sécurité transgénérale, nous réduisons les risques. Alors, nous allons vers les communautés où le comportement, l'éducation, la communication prépare les gens à ne pas avoir donc un comportement sexuellement à risque. Le comportement à risque est tout simplement donc
du non, mais une question de curiosité, comment, quelles sont les caractéristiques d'une communauté à bas risque? Parce qu'aujourd'hui, à l'œil nu ou encore si on regarde le comportement que nous affichons à longueur de journée, il est tout à fait difficile, en tout cas, de déceler ou d'identifier une communauté à bas risque.
Écoutez, c'est une présomption. D'une manière ou d'une autre, d'abord, très bon, c'est une présomption. On pense que dans les églises, dans les écoles, les universités, évidemment, dans les églises, l'enseignement est fondé sur l'amour du prochain. est fondée également sur la moralité. Ce qui fait qu'il y a presque comme un prérequis pédagogique pour que les gens soient adaptés donc, directement à la culture du don. Et dans les instituts supérieurs, ça, les gens se posent la question. Nous savons que le comportement n'y est pas toujours. Mais évidemment, il s'y passe dans les instituts supérieurs beaucoup de séances de sensibilisation. Et il se fait qu'on a remarqué que ces personnes ont été beaucoup sensibilisées, prennent beaucoup de précautions. Et les universités, donc les écoles, considèrent les communautés à bas risque. Également, les entreprises, avec aujourd'hui la stratégie du CIELS, la Commission inter-entreprise de lutte contre le sida, eh bien, les entreprises préparent déjà leurs agents, n'est-ce pas, à être à moindre risque. Et nous avons remarqué que les résultats ont.
Avoir des comportements responsables.
Voilà. Mais ce que nous avons remarqué, même pour ce que vous venez de dire, dans les universités françaises et belges, on n'accepte pas trop ces comportements comme étant un critère scientifique. Et là-bas, les critères scientifiques, donc, c'est la prévalence. Hein, et ça dit qu'il faut qu'il y ait d'abord des échantillons qui soient testés et qu'on puisse faire une proportion entre les atteints et les non atteints. Cela est donc plus scientifiquement viable dans les universités.
Alors là, ça m'amène à vous poser la question sur la sécurité transfusionnelle. Le sang récolté est-il directement transfusé aux malades ou bien tout passe par des tests? Donc tout passe forcément par les tests.
C'est ça la sécurité. Si on devait transfuser directement, on ne parlerait pas de sécurité. La sécurité, ici, donc, ce sont toutes ces précautions qui sont prises. Elles partent donc des aspects psychosociologiques. Ici, nous parlons donc de la sélection du donneur, où le donneur est interrogé. Mais on ne suffit pas seulement à l'anamnèse, c'est-à-dire aux déclarations du donneur. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mobiles qui peuvent l'amener à chercher à faire le don de sang sans que la personne soit prête. Quelqu'un peut faire le sang parce que je connais son statut sérologique. C'est un motif faux.
Parce que nous avons vu des cas d'urgence, en tout cas un cas d'urgence, de médecins, parfois sans passer par les tests, et ils procèdent à la transmission d'un sang qui provient par exemple d'un membre de famille.
Oui, ce sont des cas qui sont arrivés, mais des cas qui sont contraires à la qualité.
De même, alors que le donneur appartient à la famille du malade, il faut que ça passe par les tests.
Aujourd'hui, le principe directeur universel appliqué dans toute la République démocratique du Congo, c'est que tout sang à transfuser est soumis au test requis sur le protocole national.
Alors, nous allons rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous faire parvenir leurs préoccupations. Vous avez peut-être des soucis par rapport à cette question ou vous voulez devenir un donneur bénévole. Et n'hésitez pas, composez les 081 890 63 94 pour les appels ou encore les 081 070 20 50 pour les SMS. Et ceux qui nous suivent sur le net, écrivez-nous à service@radiocapi.net.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et vous qui venez de nous rejoindre. Bienvenue au Capi Service, votre magazine, la tribune des services. Nous avons en ligne Jérémy Do de Bandundouville, Soupignembo de Kalima au Manema et Norbert Dubelay de Kananga. Merci de nous rejoindre. Jérémy Do, bonjour. Alors, Soupignembo, vous êtes à Kalima au Manema. Bonjour Soupi.
Bonjour Yagier, bonjour à tous les auditeurs.
Bah alors, Soupi, quelle est votre préoccupation?
Oui, je voudrais demander à notre invité parce que si selon Kalima, si par exemple votre enfant est diminué du sang, on va d'abord vous envoyer à chercher la personne qui peut avoir par les groupes de votre enfant, si l'enfant a donc du groupe A, mais là ça perd quand même le sang. J'ai entendu que les gens de bénévoles, notre gouvernement avait organisé, ils vont venir, mais je demande à notre invité, est-ce qu'ils viendront en quelle date?
Au Manima?
Non, à Kalima.
À Kalima.
En fait, au territoire du Pang.
Merci beaucoup, Soupi. Norbert Dubelay, vous êtes à Kananga. À Kananga, pardon, bonjour.
Bonjour J.R. Mungembo, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati, bonjour à l'invité. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas pu en parler. Voilà, je vais poser deux questions sur moi. La première, je vais demander juste à l'invité afin de nous parler
concernant la conservation des soins. Comment conserver les soins? Là où, quand on a le soin, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces soins puissent être protégés quand même lors de la transfusion, que ce soit un bon soin? Deuxième préoccupation, je demande où est-ce qu'on peut aller donner son soin? Parce que quand on est un donneur bénévole du soin, on doit aller quelque part. On doit aller dans quelle place, parce qu'on peut aller à n'importe où. Hein, et quand on peut aller comme ça, les gens qui vont récupérer le sang, où est-ce qu'ils vont mettre ce sang-là? Parce qu'il faut aller là où il y a des frigos, comment protéger les sang. Et deuxième question que je vais demander à l'invité, pensez-vous que le sang donne réellement la vie? Bien que la vie d'une personne, c'est le sang. Dès qu'il a cette façon de penser, que le sang donne la vie à une personne. Voilà les deux questions que je demande à l'invité J.R. Lungembo.
Merci Sylvie, merci Norbert également. Jean-Marie Bayonga, vous êtes expert en communication et chargé des ressources humaines au programme national de transfusion sanguine. Et là, vous avez trois préoccupations. La première liée à la compatibilité sanguine. Deuxièmement, c'est la chaîne de froid. Et puis, troisièmement, le sang, est-ce que nous garantit directement qu'il y a la vie?
Oui, voilà. Je remercie toutes ces personnes.
Soupinimbo à Kaliakalima et Norbert.
Ça montre l'intérêt attaché donc à la question du sang. Et voilà, à Kalima, à propos de la disponibilité, d'abord, j'aimerais rappeler à tous nos auditeurs qu'aujourd'hui, dans chaque chef-lieu de province, nous avons un centre provincial de transfusion sanguine fonctionnel, donc en train d'agir sur les questions du sang, pas seulement dans les villes, même dans les zones de santé. Si bien qu'aujourd'hui, on peut compter au moins 240 zones de santé de la République qui ont commencé à être couvertes par la stratégie don de sang et conservation des produits sanguins. Alors, Kalima, je pense que il faut qu'il puisse.
Il y a déjà un centre là-bas.
Il devra s'adresser directement donc à notre centre de Kindu, le CPTS, qui maîtrise donc les oscillations, les circuits d'exploitation de cette activité. Mais je pense que Lima est un grand centre. J'estime que l'activité n'est pas très loin d'arriver à la satisfaction des besoins produits sanguins, parce que déjà la question qu'il pose n'est pas une question de trouver les sangs, mais c'est une question de compatibilité. Ce qui signifie qu'il y a déjà quelque part un sang qui est disponible, mais j'aimerais lui dire que le sang peut être disponible, mais la compatibilité, n'est-ce pas, c'est également une partie de la sécurité. Parce que le sang qui n'est pas compatible à celui qui le reçoit, s'il n'y a pas compatibilité entre le donneur et le receveur, donc on n'a pas atteint les objectifs de la sécurité. J'insiste ici que tous ces habitants, n'est-ce pas, recherchent.
Mais quand il y a une compatibilité, les dégâts sont énormes.
Ils sont plus énormes. Et là, ce n'est plus le sang qui donne la vie, c'est le sang qui donne la mort. Et donc, dans le domaine des précautions, j'aimerais que les auditeurs qui nous semblent écouter ici, même à ce niveau-là, et qu'ils exigent également, parmi donc les éléments de précaution qui doivent être pris, donc la compatibilité des sangs que les receveurs, leurs malades reçoivent des centres qui sont en train de distribuer.
Alors, Norbert a parlé de la conservation, donc moi je crois que c'est
oui, il le disait déjà, il a parlé de frigo, etc. Oui. Mais j'aimerais dire que la conservation commence justement déjà dans les collectes des sangs. Là où se réalisent les collectes, dans les communautés où se déplacent nos équipes pour aller chercher les sangs auprès d'un bénévole de sang. Déjà, nous avons des cool box, n'est-ce pas, qui peuvent être disponibilisés pour pouvoir recueillir déjà les sangs. Mais s'il n'y a pas de cool box, parce que nous ne connaissons pas les conditions qui sont en province, il faut que le sang qui est collecté soit rapidement acheminé dans le centre où nous avons des frigos. Et ces frigos-là, nous avons eu l'appui de plusieurs partenaires, ils sont aujourd'hui dans toutes les provinces, et même dans les zones de santé, dont les conservations sont tout de même garantie, mais il faut faire ici donc une forme de différence ou de complémentarité, hein, n'est-ce pas? Un renforcement, je le dis, la conservation commence déjà lorsque le sang est recueilli et doit continuer là où il y a des frigos jusqu'à la livraison complète du produit sanguin, donc après test requis et compatibilité.
Voilà, nous allons prendre Amissi Fataki qui est à Kindou. Amissi, bonjour.
Et bon début de semaine à tous.
Merci. Amissi, quelle est votre préoccupation?
Oui, j'avais quelques préoccupations à soumettre à notre invité.
Oui, allez-y.
La première était de savoir si on devient un donneur bénévole du sang. Est-ce que cela exige des conditions alimentaires? Parce que nous entendons souvent donner le sang, oui, c'est facile, mais pour les récupérer, ça devient une autre chose. C'est pourquoi je voudrais savoir si ça demande des conditions alimentaires.
Merci beaucoup.
Et puis, la deuxième question était de savoir la durée du sang qu'on vient de prélever. Et l'invité parle combien de la durée. Et la dernière question était de savoir s'ils tiennent compte des groupes du sang qu'on prélève. Par exemple, les groupes O, groupe A, et ainsi de suite. S'ils tiennent aussi compte de ça pour donner le sang aux gens. Voilà mes quelques questions.
Voilà donc
question d'admission, on pourrait y revenir, c'est une question très intéressante.
Mm-hmm.
Et la deuxième question qui a été posée par notre docteur de Kananga, où donner son sang?
Ouais.
On donne le sang partout, n'est-ce pas, où les équipes organisent des collectes mobiles. Mais également, on peut donner le sang en cabine fixe, dans les hôpitaux de référence, n'est-ce pas, dans tous les hôpitaux de référence. Les besoins étant énormes, il existe un service de prélèvement en cabine fixe. Donc on peut le donner soit en cabine fixe ou en cabine mobile. La préoccupation, c'est que le sang donne la vie, bien sûr. Il n'y a pas de vie sans le sang. Même les Écritures le disent. L'âme est dans le sang. Hein? Lorsqu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Et c'est pourquoi l'activité ici de la sécurité transfusionnelle devait aujourd'hui être considérée au niveau national comme international comme une question vitale. Hein? Il y a sécurité transfusionnelle, il y a donc vitalité. Voilà. Alors, pour notre ami Amissi, les conditions alimentaires, eh bien, j'estime que lorsque nous disons qu'un donneur, un homme en bonne santé, dont le poids est supérieur à 50 kilos, eh bien, c'est vrai que cette santé est prouvée par un examen médical. Hein, il y a la consultation, n'est-ce pas, le médecin avant de... Parce que si le don est un acte médical, c'est le médecin qui le décide. Alors, il le décide après avoir consulté le donneur et après avoir marqué que le don bénévole du sang ne pourra pas empiéter à sa santé.
C'est ça.
Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a des conditions alimentaires? Je comprends sa préoccupation. Après le don de sang, il n'existe pas seulement les précautions alimentaires, mais les précautions que Dieu lui-même a pourvues. C'est que l'organisme est fait tel que 6 heures après le don bénévole du sang, eh bien, il y a une réhabilitation volumique du sang qui a été donné. Voilà, donc il n'a pas trop à s'inquiéter.
C'est parce que selon, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, que les gens pensent qu'après avoir donné son sang, il faut boire beaucoup de lait, je ne sais pas moi, consommer des aliments appropriés pouvant vous restaurer et réhabiliter le corps.
Bon, ben, il faut pas y aller brutalement, hein, avec des lipides, etc. Mais je pense qu'il faut, comme on le fait dans tous les pays du monde, n'est-ce pas, il y a un petit cocktail qui est servi.
Mm-hmm.
Hein, l'organisme lui-même étant une grande machine et qui sait toujours compenser ce qui a manqué. Une alimentation normale. Normal.
Le donneur universel, quand on parlait des hauts.
C'est cela que tout à l'heure, là, on a parlé. Je pose la question de les prélèvements. Est-ce qu'on tient compte des ABO? Je pense que la notion de donneur universel est une ancienne notion.
Ouais.
Dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui, parmi les receveurs, il y a tous les groupes, le besoin est pas, comme je l'ai dit, illimité en nombre. Aujourd'hui, donc, c'est tous les groupes qui donnent le sang. Tout le monde peut devenir bénévole de sang s'il est jeune, s'il a une bonne santé et s'il a dans son cœur la compassion des personnes qui meurent par manque de sang. De n'importe quel groupe, il peut donner le sang aujourd'hui. Donc, le sang est devenu un acte universel.
On va y revenir
pour tout le groupe.
081 893 94, c'est pour les appels.
Voilà.
Quelles sont les dispositions prises par la CENI pour accueillir les détenteurs de la carte d'électeur de 2009 dans les centres d'inscription à Kinshasa?
En milieu urbain, chaque site comportera deux centres d'inscription. Le premier recevra les détenteurs de la carte d'électeur délivrée en 2009 et le second traitera les autres demandes. En milieu rural, il sera installé deux kits d'enregistrement dans chaque centre d'inscription. Le premier servira à inscrire les détenteurs de la carte d'électeur délivrée en 2009 et le second, les autres demandes. J'ai ma carte d'électeur, je voterai. Et toi?
Alors Jean-Marie Bayongwe, vous êtes expert en communication et chargé des ressources humaines au programme national de France Vision Saguenay. Il y a une question qui est restée, celle d'un ici, durée de vie du sang. Est-ce qu'on peut parler quand même d'une durée
Oui, c'est-à-dire que si le sang est très bien conservé, nous parlons des globules rouges qui sont le plus fréquemment transfusés, eh bien c'est à peu près 36 jours. Mais pour des raisons de sécurité, n'est-ce pas? Il n'est pas toujours bien, je ne conseille pas à ce que les gens attendent le 36e jour pour pouvoir transfuser. D'abord à partir des besoins que nous avons dans le pays, n'est-ce pas le paludisme chez les enfants déjà, qui fait que nous avons presque chaque jour...
Même alors quand tu te sens bien protégé dans la chaîne de froid, dans les banques de sang.
Globule rouge c'est 36 jours.
36 jours.
Après ça donc...
Il faut jeter. Gabriel Gondele de Isiro, vous êtes dans la province orientale, merci de nous rejoindre. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour à Biocati, bonjour à l'invité M. Jean-Marie et bonjour à tous les auditeurs. Une petite intervention qui ne sont pas longtemps. La première, je voulais demander à M. Jean-Marie à quel âge débutait donner du sang et à quel âge cesser de donner le sang. La deuxième intervention consiste à ma contribution. Je suis donneur universel de aux réussites positifs depuis juin 2004 jusqu'en avril 2011. J'ai déjà totalisé 15 dons de sang, dont 5 à Kinshasa et 10 à Isiro. Troisième intervention, que prévoit le Centre national de transfusion sanguine pour ce genre de dons? Et je voudrais donner ma référence de Kinshasa à M. Jean-Marie, qui est le 10-943-05. Donc je n'ai pas cessé, même à Isiro, j'ai continué à donner du sang. La quatrième intervention, quel est l'appui du programme national de transfusion sanguine aux structures sanitaires comme notre district du Haut-Ouélé qui n'a pas de chaîne en soie? Je sais qu'il y a une dernière intervention. Il y a un début. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'on renforce les capacités pour aider nos médecins qui se battent comme des diables dans les bénitiers pour sauver des vies humaines? La cinquième intervention, la toute dernière, ces derniers temps, il y a une fréquence d'anémie qui touche les enfants chez nous à Isiro. Est-ce que le programme national de transfusion sanguine peut prévoir quelque chose comme recherche et enquête, essayer de nous aider un peu pour consolider, aider nos médecins, aider le corps médical à Isiro pour que toutes ces vies de ces petits-enfants qui sont l'avenir de demain puissent perdurer en danger?
Merci Gabriel. Jean-Marie, on prend ça rapidement parce qu'il me reste quelques minutes. Hein.
Voilà, donc je pense que l'âge requis, c'est entre 18 et 60 ans pour celui qui commence. Mais pour quelqu'un qui a été donneur bénévole de sang, comme notre ami qui a déjà fait 15 dons, on pourrait aller jusqu'à 65 ans, évidemment, sous précaution de contrôle médical, l'attention et donc les autres maladies émergentes. Parce que vous savez, tout ceci doit se faire également par rapport au tableau épidémiologique.
Tout à fait.
Le donneur n'est pas sélectionné en dehors du tableau épidémiologique. Voilà. Alors,
quand est-ce qu'on peut. Vous avez dit, de 10 à 18 ans.
Oui.
Et on sait ça à
60 ans. 60 ans, si c'est la première fois que la personne donne un
essai. Comme lui, il est déjà donneur.
Voilà, il est déjà donné à 65 ans. Mais je dis toujours, appréciation médicale oblige.
Il a donné sa référence 10-943.
Oui, parce qu'il a fait 15 ans. Il demande ce que le synthèse fait généralement pour encourager les donneurs. Oui, nous avons dans le cadre de la fidélisation. C'est la fidélisation, c'est-à-dire l'ensemble d'activités qui permet à maintenir le donneur à poser cet acte tous les 3 mois. Dans le cadre de la fidélisation, nous avons, n'est-ce pas, des éléments d'encouragement. Notamment, nous avons nos diplômes, les diplômes d'honneur, parce que c'est un acte de révolte.
Oui, donc
il y a quand même des diplômes d'honneur, mais des cartes qui permettent, qui ont permis à certains donneurs de jouir de certains avantages liés à leur rang, en dehors donc de l'activité que nous organisons. Et donc là, comme il est à 15 ans, il devrait avoir son diplôme déjà du donneur de la dizaine. J'en profite pour le féliciter et féliciter toutes les personnes qui, dans toute la République, ces héros donc anonymes, qui acceptent de donner leur sang pour sauver des vies humaines. Ils n'ont personne à les remercier, mais le Centre national des transfusions sanguines leur dit merci. Ah, et c'est à l'objectif donc de la journée.
Et une dernière question qui me vient à l'esprit, mis à part le test du VIH et SIDA, quelles sont les autres pathologies qui font l'objet également du test, notamment dans les dents du sang?
Oui, à part le VIH et SIDA, il y a l'hépatite B, l'hépatite C, leur père, le syphilis. Et nous avons également un marqueur qui est en expérimentation, c'est donc la trypanosomiase africaine, appelée communément maladie du sommeil.
Jean-Marie Bayongwa, vous êtes expert en communication et chargé des ressources humaines au Programme national des transfusions sanguines. Merci d'avoir été de nôtre et à très bientôt.
Merci.